Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Antoine Armstrong, Compublic. Je remplace Marc Tessier-Dorfeuille aujourd'hui pour accueillir Malik Abdallah, deuxième adjoint à la mairie de La Roche-sur-Yon, en charge de l'aménagement, de l'urbanisme, des bâtiments publics et de l'espace rural. Malik Abdallah, bonjour, bienvenue parmi nous.
Bonjour.
Alors Malik Abdallah, vous êtes donc deuxième adjoint en charge de l'urbanisme et de l'aménagement à La Roche-sur-Yon, qui, on le rappelle, est la préfecture de la Vendée avec 54 000 habitants. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la politique de logement à La Roche-sur-Yon, comprendre un petit peu quels sont les besoins en matière de construction de logements sociaux et notamment les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le cadre de votre politique ?
Oui, très bien. Je pourrais même vous parler de l'agglomération, parce que je suis vice-président de l'agglomération en charge de la politique de l'habitat, notamment de la question des logements sociaux. Sur le territoire de La Roche-sur-Yon, au niveau du logement, alors, on a la chance à La Roche-sur-Yon d'être en Vendée, dans un territoire dynamique, et on est extrêmement bien placé entre Nantes, La Rochelle, le Puy-du-Fou et les Sables-d'Olonne, ce qui fait que La Roche-sur-Yon est une terre dynamique, dynamique en termes de nombre d'habitants qui arrivent, oui. Dynamique en termes d'emploi, en termes d'économie. Et donc du coup, ça se ressent évidemment sur le logement. Juste avant la crise sanitaire, on avait une tension assez forte sur le logement, on commençait à avoir un début de crise du logement. La crise sanitaire a fortement accentué cette problématique-là. Et aujourd'hui, sur le territoire de La Roche-sur-Yon, on peut dire que nous sommes au début d'une crise du logement, avec des personnes qui ne trouvent plus à se loger. Et ça concerne tous les types de logements. Ça concerne les petits logements, avec une augmentation très forte du nombre d'étudiants et de jeunes sur notre territoire. Ça concerne les familles, ça concerne aussi les anciens, ça concerne les acquisitions de logements, mais ça concerne aussi, et peut-être encore plus, les locations de logements. Nous sommes sur La Roche-sur-Yon, sur un marché extrêmement tendu sur le logement, et que ce soit sur le logement privé ou même le logement social.
La conséquence du territoire dynamique fait que j'ai bien compris qu'il y avait une tension sur le logement et qu'il fallait trouver des solutions. Est-ce que on parle aujourd'hui du fonds friche pour justement lutter contre l'artificialisation des sols? Est-ce qu'au niveau de vos territoires, vous avez beaucoup d'espaces qui potentiellement pourraient être réutilisés justement pour essayer de répondre à cette problématique aujourd'hui?
Ouais, on est en plein dans la révision du PLU de La Roche-sur-Yon actuellement. On vient de valider toutes nos réunions publiques. Et justement, on a du coup les chiffres. On prévoit, nous, juste sur La Roche-sur-Yon, de construire 4600 logements sur 10 ans, 460 logements par an à peu près. Je pense qu'on sera un petit peu au-delà. Dans nos calculs, on va réussir à créer 3000 logements, donc 300 par an, d'accord, en renouvellement urbain. Donc à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de La Roche-sur-Yon et 1500 autres, donc un tiers, qui devra être fait en extension. Et donc sur ces 3000 logements, en effet, on essaye d'optimiser au maximum les fonciers, on regarde les différentes friches qu'on peut avoir, des anciens lycées, des anciens centres techniques, des maisons moins qualitatives à démolir et à reconstruire. Donc on en trouve, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça met plus de temps, et c'est compliqué parce que ça coûte cher, d'où le fonds friche que tu as évoqué, où La Roche-sur-Yon a fait partie des premiers lauréats des fonds friche. On a eu 3 projets sur plusieurs millions d'euros qui ont été attribués pour 3 projets de logements en centre-ville, et fonds friche sans lequel ces projets n'auraient jamais vu le jour. Mais le problème, c'est qu'on a d'autres projets qui sont potentiellement à l'arrêt et qui ont exactement les mêmes problématiques. Donc oui, on a matière. Mais on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué de les trouver, mais surtout de trouver une réalité économique pour nos promoteurs.
D'accord, donc on voit qu'il y a un vrai engouement avec effectivement 4600 logements sur 10 ans. Le fonds friche qui vous permet d'avancer sur certains projets, même s'il y a encore une limite puisqu'il y a d'autres problématiques qui sont liées. En matière de politique de logement et notamment sur le sujet de l'habitat indigne, vous souhaitez mettre en place l'utilisation du permis de louer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus la démarche que vous mettez en place au niveau de la mairie ?
Ouais, alors c'est une démarche agglomération et mairie, parce que c'est la politique d'habitat et de l'aglo. Donc on l'a lancé au dernier conseil d'agglomération. Donc on lance le permis de louer, mis en place uniquement sur la ville de La Roche-sur-Yon, et on a ciblé un quartier, qui est le quartier des Halles, qui est le plus vieux quartier de La Roche. En fait, on n'a pas, nous, de cartographie et de réalité, finalement, de l'habitat indigne. On ne connaît pas, finalement, on connaît mal les élus, on connaît mal nos logements. Donc, du coup, le permis de louer, il y a 2 permis de louer différents. L'un qui est très restrictif, qui impose une autorisation avant de mettre à louer une location, c'est pas ce qu'on a choisi parce que ça peut mettre à mal les locations et du coup le rajouter à une crise du logement. Par contre, on a mis en place un permis de louer un peu plus soft en expérimentation qui impose de déclarer toute location de logement dans un secteur déterminé, qui est le secteur des Halles. Les propriétaires doivent déclarer le logement et doivent nous dire dans quel état est le logement. Et cette déclaration va nous permettre, nous, de pouvoir aller contrôler aléatoirement les logements. On connaît déjà certains bâtiments qui peuvent poser problème, mais aujourd'hui, sans qu'on ait de signalement, on ne peut pas intervenir. Avec le permis de louer, on va pouvoir intervenir chez les propriétaires qui ont déclaré ou qui n'ont pas déclaré. Et s'ils ne déclarent pas, c'est peut-être aussi qu'il y a de l'habitat indigne derrière et donc il y aura un contrôle et il peut y avoir aussi des sanctions qui ne sont pas des énormes sanctions mais qui peuvent être des sanctions fiscales notamment vers les propriétaires. Et l'objectif derrière, c'est d'identifier ces logements indignes et d'accompagner les propriétaires vers de la rénovation de ces logements et de les accompagner également financièrement. Donc on n'est pas là non plus pour contraindre les propriétaires, il y aura une déclaration à CERFA à faire et après derrière il y aura des contrôles aléatoires et puis un accompagnement à la rénovation.
Et ça veut dire que comme aujourd'hui on a des indices en matière de performance énergétique du logement qui sont mis sur la table quand on loue ou quand on achète un logement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres indices justement à l'image de celui-là qui vous permettraient de savoir un petit peu comment caractériser le logement, savoir dans quelle catégorie il rentre et effectivement s'il est indigne et quelles sont les solutions à mettre en œuvre pour y remédier ?
C'est compliqué parce que sur le papier, la majorité des propriétaires ne vont pas estimer qu'il est indigne. Donc nous, on va regarder, en fait, les contrôles aléatoires, on va les faire sur les habitations d'une certaine période où on sait qu'il y a déjà eu des signalements dans l'immeuble, etc. On n'a pas vraiment de critères. Donc du coup, on va aller contrôler aléatoirement en fonction de critères qu'on s'est fait en interne, hein, qui sont plutôt des critères sur les années de construction et les différents signalements. Et ensuite, on va regarder du coup l'étiquette énergétique des logements et on va regarder, il y a une grille par contre sur l'habitat indigne qui existe au niveau nos services sociaux qu'on va utiliser et voilà et puis après on va aller contrôler et on espère pouvoir accompagner des rénovations de logements peut-être finalement parce que c'est une expérimentation qu'on va se rendre compte que l'habitat indigne qu'on connaît finalement très mal sur le territoire peut-être qu'il est pas si important que ça dans le quartier et s'il est pas si important que ça peut-être que ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Peut-être qu'au contraire, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de logements qui mériteraient une énorme rénovation. Mmh. Et dans ce cas-là, pourquoi pas aller sur le levier au-dessus et qui est vraiment là de la contrainte au niveau de la location.
Et donc justement, en matière de lutte contre la précarité énergétique dans les logements, vous avez déjà mis en place des actions à l'échelle de la collectivité. Comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce que ça se concrétise? J'imagine que vous travaillez peut-être avec l'ANA aussi dans votre politique.
Oui, exactement. Là, aujourd'hui, ce qui existe sur le territoire de l'agglomération, c'est le guichet unique de l'habitat. Le guichet unique de l'habitat permet à tous les habitants de La Roche-sur-Yon, sous critères de ressources, donc c'est les ressources ANA, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Quelqu'un qui veut refaire ses ouvertures va contacter, ou sa chaudière, va contacter l'agglomération. On va regarder si cette personne est sous les critères de ressources. Et il va y avoir une visite sur site, un technicien, qui va accompagner les personnes sur les travaux et conseiller les meilleurs travaux à réaliser pour avoir un gain énergétique suffisant. Et on va l'accompagner financièrement. Il y a les aides de l'ANA, il y a les aides de l'agglomération en propre, et désormais, il y a MaPrimeRénov. On s'est rendu compte que ce dispositif, il était intéressant, mais il ne suffisait pas, puisqu'en fait, on touche que des personnes qui sont sous critères de ressources. Et la majorité des propriétaires ne sont pas sous ces critères de ressources. Donc, on a décidé, au dernier conseil d'agglomération, de mettre en place une plateforme territoriale de la rénovation énergétique. Et donc là, c'est le guichet unique qui s'agrandit à tous les habitants de l'agglomération, peu importe les ressources. L'objectif, c'est que si ces personnes-là, qui sont au-dessus de ces ressources-là, souhaitent aller vers une étiquette, plutôt une étiquette d'excellence A ou B, en estimant qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'ambition sur la transition énergétique et sur la lutte contre la précarité énergétique des logements. Ces personnes qui se disent, ben voilà, moi je veux rénover mon logement, oui, pourquoi pas aller vers une étiquette A ou B. Dans ce cas-là, on va mettre en place le même dispositif qui existe déjà, mais pour ces personnes-là. Et donc, il va y avoir un entretien personnalisé avec ces personnes-là. On va regarder quels sont les travaux qui peuvent être réalisés. Un technicien va aller sur site, va regarder les travaux qui étaient envisagés et les travaux qui sont conseillés pour aller vers cette étiquette A et B. Et si ces personnes-là vont vers ces étiquettes-là, un accompagnement financier de la collectivité qui a été voté en fonction des critères de ressources également, mais que l'on soit propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Et si jamais on n'atteint pas cette étiquette A ou B, on va vraiment orienter ces habitants-là vers les dispositifs qui existent déjà, je pense à MaPrimeRénov ou d'autres dispositifs qui existent. Et on va aussi inciter fortement les habitants à conventionner leur logement en logement social avec des travaux. Et donc, on va imposer un conventionnement de 9 ans, mais derrière, on va accompagner financièrement d'une part la rénovation, mais d'autre part, on va aussi accorder une subvention de plusieurs milliers d'euros pour ces propriétaires-là. Donc, c'est vraiment un guichet unique de tous les habitants de l'agglomération. Et donc, on met sur la table 3 millions d'euros qui n'étaient pas prévus au budget. On met 3 millions d'euros sur ce dispositif en aide financière, en accompagnement technique et en recrutement humain. Donc, c'est un gros dispositif tout nouveau qui date de 2021.
Et donc 3 millions d'euros qui viennent être décidés en plus des ressources qui sont mises à disposition par l'ANA et en plus de MaPrimeRénov pour justement élargir l'assiette des propriétaires qui pourraient être concernés pour participer à la rénovation de ces bâtiments du coup.
Oui, exactement. On va garder toutes les aides qui existent déjà pour le public sous critère de ressources. Et là, on va augmenter fortement pour tous les habitants de l'agglomération parce qu'on se rend compte qu'on ne capte pas finalement les propriétaires bailleurs. Propriétaires qui sont des investisseurs et on capte pas les propriétaires occupants qui sont au-dessus de ces critères de ressources et qui devraient améliorer la qualité énergétique de leur logement. Donc là, on a un véritable outil de territoire et l'objectif, c'est d'aller au fur et à mesure crescendo. On vise là pour l'année 2022 100 rénovations énergétiques avec ce nouveau dispositif, en plus des 300 autres qui existent déjà. Et l'idée, c'est de doubler chaque année ces accompagnements-là.
Un programme ambitieux de rénovation à l'échelle de votre territoire. On va aborder une dernière question sur le programme Action Cœur de Ville qui fête cette année ses 4 ans. La ville de La Roche-sur-Yon a été retenue en 2018 pour intégrer ce plan d'action. Quel est le bilan que vous portez aujourd'hui sur les projets qui ont été mis en place dans votre commune et quel regard est-ce que vous avez sur ce programme qui a été prorogé jusqu'en 2026 ?
La particularité de La Roche-sur-Yon, c'est que nous avions déjà un projet de centre-ville déjà plutôt abouti. Ce qui veut dire qu'Action Cœur de Ville, alors, on a fait partie des premières collectivités signataires, mais par contre, Action Cœur de Ville ne nous a pas apporté de nouveaux projets. Mais au contraire, Action Cœur de Ville avait besoin de projets matures à sortir tout de suite. C'est ce que nous, on a pu apporter très rapidement. On avait un programme qui était bien défini, c'est notre deuxième mandat, donc on avait évidemment déjà travaillé sur le dossier au début du premier mandat. Par contre, ce qu'Action Cœur de Ville nous a apporté, clairement, c'est des financements. On parlait tout à l'heure du fonds Friche, il y a les fonds de l'ADEME, on a eu des financements sur notre musée là qu'on va mettre en place, sur un cinéma de centre-ville, on a des financements qui sont plutôt intéressants. On a d'ailleurs eu la très bonne nouvelle d'avoir une nouvelle aide de l'ANA qui est l'aide aux façades. Et d'ailleurs, qui est issu de La Roche-sur-Yon, parce que c'est une aide qu'on a mis en place en 2017. On accompagne les commerçants et les propriétaires de bâtiments dans le quartier des Halles. On les accompagne pour la rénovation du coup de leur devanture commerciale et de leur façade, en accompagnement de la rénovation de tout le quartier des Halles. Mmh. Et ce dispositif, on l'a fait remonter au niveau national. Et du coup, l'ANA a décidé de mettre en place une aide financière sur le même dispositif et les mêmes critères. Du coup, ça nous a permis. Oui, c'est très bien, au contraire. Et ça nous a permis, nous, avec la même enveloppe, d'élargir le périmètre. Et donc, on a un nouveau secteur du centre-ville où on va accompagner nos commerçants et nos habitants pour la rénovation des devantures commerciales et des façades. Donc, le programme Action Cœur de Ville, si je résume, ça n'a pas bouleversé nos projets parce qu'ils existaient déjà. Sur l'enveloppe globale, alors, moi, je me méfie quand même de l'enveloppe globale parce qu'on a eu un rendez-vous il y a 2 jours avec le préfet de la Vendée sur Action Cœur de Ville. Il nous a parlé d'un montant, alors je sais plus, 100 milliards d'euros au niveau national. Okay. À l'intérieur de ce montant-là, il y a déjà tout ce qui était déjà prévu. Les aides de l'ANA pour la rénovation, elles étaient déjà prévues avec ou sans Action Cœur de Ville. Mais par contre, Action Cœur de Ville nous a permis d'avoir une vraie cohérence au niveau de notre centre-ville. On a pu voir vraiment notre cohérence de projet, et pas que les projets urbains d'ailleurs, des projets sur du numérique, des projets sur du bureau, sur du commerce. Et donc, on a une vraie cohérence sur notre dynamique de territoire. Et ça nous a permis quand même d'avoir une cohérence sur notre centre-ville et d'aller chercher des financements. Et si Action Cœur de Ville a vraiment un atout, c'est que ça a permis de sortir des projets qui n'auraient jamais pu voir le jour sans ces subventions. Et là, il faut se féliciter sur ce projet-là. Ça nous a pas rajouté des projets, mais ça nous a permis peut-être d'avoir plus d'ambition sur nos projets, d'accélérer des projets et de financer des projets qui aujourd'hui seraient à l'arrêt.
Ça a été un outil supplémentaire pour votre politique et pour pouvoir justement participer au développement de la ville et mettre en œuvre différentes problématiques justement pour l'aménagement de votre territoire. Merci Malik Abdallah d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir participé à cette émission. À très bientôt. Au revoir.
Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.